Seigneur, merci de ce que tu nous donnes ce matin, d'ouvrir ta parole, d'examiner la loi des saints. Et tu nous as sanctifiés par ta parole, par laquelle tu nous appelles à nous nourrir. Et ce matin, Seigneur, tu voudrais nous parler. Accorde à chacun d'entre nous des oreilles de disciples, et des cœurs aptes à entendre, à comprendre ce que toi, Dieu, tu veux. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, dans le nom de Jésus. Amen. Le lundi dernier, une sœur avait proposé un texte extrait du livre des Éphésiens, chapitre 4, et qui avait fait l'objet de prières de quelques membres du conseil presbytéral. Et sans nous concerter, c'était le texte sur lequel j'aurais aimé que nous nous entretenions pour nous encourager sur le chemin de la foi, que j'ai pu intituler en extrayant les slogans de notre union « Pour un peuple qui grandit ». En Christ, une famille unie, l'alliance d'une vie pour un peuple qui grandit. Nous allons lire le texte d'Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 16, et nous examinerons les quelques versets qui nous concernent. Lisons. Je vous exhorte donc, moi, c'est l'apôtre Paul qui parle, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Lorsque nous sommes venus à Dieu, lorsque nous étions encore coupables et perdus, Dieu ne nous a pas demandé autre chose que de confesser nos péchés, de croire en son pardon et de saisir le salut qu'il nous tend. Oui, le salut, c'est une main tendue de la part de Dieu qui nous offre un salut éternel et gratuitement. Si, ça a un prix, mais pour nous, c'est gratuit. La vocation céleste à laquelle Paul nous appelle, par contre, la vocation, elle a un prix. Elle exige un prix. Le don de tout notre être qui donne lieu à une récompense future. Le don de tout notre être. Parce que Dieu n'a pas hésité. Dieu n'a pas fait un don à moitié quand il nous offrait son Fils. C'est tout entier. Et c'est tout entier que nous sommes appelés à nous donner à Dieu. Et c'est à tout instant que nous appartenons à Dieu, pas que de temps en temps. On n'est pas enfant de Dieu aujourd'hui et demain on ne l'est pas. Et le surlendemain on le redevient. Non. Quand on devient enfant de Dieu, on le devient une fois pour toutes. Donc la vocation céleste appartient qu'à tous les enfants de Dieu. Tous sont appelés, bien que tous ne les répondent pas. Dieu nous convoque à une association dans laquelle il se donne entièrement à nous, et c'est une mise ensemble d'intérêts en commun, en quelque sorte. Et si les intérêts de Dieu se confondent avec ceux de ses enfants, votre intérêt, c'est l'intérêt de Dieu. Votre joie, c'est la joie du Seigneur. Et si, après avoir appelé ce merveilleux conseil aux communautés messianiques d'Éphèse, dans les trois premiers chapitres, l'apôtre Paul va présenter la situation des chrétiens sous une autre forme. Devenir chrétien nous donne accès aux privilèges de Dieu, car Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous pouvons en faire la liste. Mais en même temps que nous sommes bénis, de notre côté, nous avons des obligations. Je ne veux pas dire devoir, parce que le devoir chrétien a défrayé la chronique de notre histoire, que rien que le mot devoir suffit déjà pour nous rebuter. Je parle des obligations et des exigences. Quand on devient enfant de Dieu, on n'a pas que les privilèges, pas que les honneurs, pas que le statut d'être protégé par le Seigneur, mais il nous donne des obligations et des exigences qui découlent du fait que nous sommes devenus enfants de Dieu. Car enfant de Dieu, on le devient. On ne naît pas enfant de Dieu. C'est en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur que nous devenons enfants de Dieu, non seulement au sens de la filiation spirituelle, mais au sens juridique qui fait de nous des héritiers, des choses qui appartiennent à Dieu. Ainsi, l'apôtre Paul va rappeler le caractère élevé de l'appel que Dieu nous a accordé et qui nous mène vers une espérance commune. Qui dit espérance commune, dit destin commun. C'est donc à la fois un privilège inégalé d'être enfant du Seigneur, mais aussi de notre part, l'apôtre Paul se plaît à nous rappeler les exigences et les obligations que le devenir enfant de Dieu nous donne comme statut. Ainsi, il va le dire à travers ce verset. Je vous le demande donc avec insistance, et on pourrait dire supplier, je vous supplie, moi qui suis le prisonnier dans le Seigneur, je vous demande de vous conduire d'une façon digne de l'appel de Dieu. Pour quel but ? Le but recherché par l'apôtre Paul se transparaît dans le verset 13 que nous n'avons pas lu, et je le lis. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. C'est tout un programme et toute une transformation. C'est pour cela qu'il nous interpelle à l'humilité et à la patience. À la patience à l'égard de ceux qui marchent et qui trébuchent. Quelles que soient les années de la foi, le rythme de la croissance dans la vie des uns et des autres n'est pas identique. On ne va pas se juger à la mesure des hommes. On laisse les autres croître. Dans beaucoup d'images bibliques, Dieu prend une image agricole ou des plantes pour désigner le chrétien dans son devenir. Et lorsqu'on est planté dans le champ de Dieu, tout dépend du degré d'engrais qui sont là pour pouvoir nous faire grandir en présence de Dieu. Il y en a d'autres qui croissent vite, comme des roseaux, mais il y en a qui prennent du temps. Et donc nous ne devons pas nous juger. Nous devons simplement nous prier les uns pour les autres. Nous gaspillons beaucoup d'énergie à parler et à parler mal, plutôt qu'à utiliser cette énergie à prier et à prier bien. Parce que le bénéfice de prier bien est beaucoup plus grand que les dégâts que le mal parlé peut apporter, et pour nous et pour les autres. Nous sommes dans le royaume de Dieu, même s'il n'est pas encore totalement manifesté, mais nous en sommes le représentant. Nous sommes le représentant du ciel. Nous avons été extraits du monde. Dieu nous a modelés. Il a insufflé en nous le souffle de la vérité. La lumière a jailli dans nos âmes, dans nos corps, dans notre être entier. Et nous sommes appelés à être la lumière comme Dieu, il est lumière. Les lois qui doivent nous conduire, les lois qui doivent régir notre réflexion, notre agir, notre relation interpersonnelle, ce sont des lois du ciel. Bien qu'en ayant les pieds sur terre, nous vivons les lois de Dieu. Parce que nous n'appartenons pas à ce monde, mais nous appartenons au royaume du Seigneur. Nous sommes comme des pèlerins. Notre point d'attache n'est pas ici. Elle est au ciel, mes bien-aimés. Et même si momentanément, nous semblons être confrontés à des montagnes, à des souffrances de tout genre, à des combats qui ne disent pas leur nom, les plus grossiers comme les plus subtils, laissez-moi vous affirmer par la parole du Seigneur que ces combats ne sont pas inutiles. Capitalisez la souffrance qui sont les vôtres en tant qu'enfants de Dieu. Quand je dis capitaliser, c'est-à-dire accepter de souffrir pour la vérité et de ne pas trahir la race de Christ. Parce que le jour viendra où votre obéissance fera l'objet d'une récompense. Voilà, c'est ça. Et ça, Jésus a pris soin de nous le dire. Et tout cela commence par un phénomène spirituel qui a été bien rappelé par Gérard. C'est d'accepter la parole du Seigneur comme une semence et d'être transformé. Transformation du corps, de l'âme et de l'esprit. L'enjeu à ce niveau pour le chrétien est donc de laisser Christ venir en nous, vivre la dimension de sa vie dans tous les domaines de notre existence. C'est ça la vie chrétienne. C'est la vie de Christ en moi. C'est-à-dire Christ rentre en moi, il se sert de ma vie, il se sert de ma parole, il se sert de mon corps, il se sert de mon être. C'est ça la vie chrétienne. Il nous conduit à mépriser ce qui est mauvais, à nous attacher à ce qui est juste. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Car celui qui est attaché à Christ a un même esprit avec lui. C'est pour ça que la Bible a dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Dieu. C'est un vrai verset qui mérite d'être creusé. Mais je veux en dire deux mots. Quand on n'a pas l'esprit de Christ, dont on est animé, on a un esprit qui est opposé à l'esprit de Christ, c'est-à-dire l'esprit de l'Antichrist. C'est si simple que ça. Que ce soit inspiré directement par le diable ou de l'humain, parce que tout ce qui est humain est à l'opposé de Dieu. Car lorsque Jésus devait aller à Jérusalem pour être crucifié et qu'il portait cette information à la connaissance de ses disciples pour les préparer, il y a Pierre qui est sorti du rang pour dire que « Qu'à Dieu ne plaise, Seigneur, tu n'iras pas. » Jésus l'a regardé longtemps, lui a dit « Arrière de moi, Satan, tes pensées sont les pensées d'homme. » C'est pour ce qu'il faut être impérativement être animé de l'Esprit du Christ. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'appartient pas à Dieu. C'est la Bible qui le dit. Vous n'avez pas besoin de vous remettre en question. Parce qu'il a fallu l'Esprit de Christ que vous acceptez Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ça, c'est un bon grand pas dans la bonne direction. Mais demeurons-y. Cultivons cet état d'esprit qui est l'Esprit de Christ. Cette vérité s'articule autour d'un point important que Jésus a dit à ses disciples à propos du salut chrétien. Je suis la vie éternelle. Et c'est ici la vie éternelle. La vie éternelle qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire Jésus. Car il n'a pas été donné à tout le monde de connaître Jésus, hein, comme le Fils de Dieu. Lui-même, à un moment donné, les gens banalisaient sa présence. Il était obligé de s'arrêter pour poser la question. Et il pose la question à nous ce matin. Il a dit à ses disciples, il dit, voilà, hey, qu'est-ce que les gens disent de moi? Vous discutez avec vos camarades. Les gens parlent de moi, Jésus. En quels termes parlent-ils? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Ah, les gens disent que tu es Jérémie, certains disent que tu es... Bon, Jésus a dit, bon, si eux, ils ne savent pas qui je suis, parce qu'ils ne me connaissent pas, ça tombe sur le bon sens, n'est-ce pas? Mais vous, on se promène ensemble, on mange ensemble, on passe des moments ensemble, vous, que dites-vous que je suis? Vous, les disciples. Très important ça. Parce que la connaissance de Christ, le juste, la juste connaissance, la véritable connaissance de Christ, implique des conséquences. Si on n'a pas une bonne connaissance de Christ, tout ce que Jésus a promis dans sa parole ne nous sera pas échu. On passe à côté. Et Pierre va sortir de l'ombre pour dire que tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Jésus a dit, ah oui. Heureux sois-tu, Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang, expression hébraïque, qui dit que ce n'est pas historiquement, ni socialement, ni culturellement que tu me connais, mais c'est l'Esprit de mon Père qui t'a donné cette révélation. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Il est allé beaucoup plus loin. Il a dit que comme tu as une exacte connaissance de moi, Jésus, tu es Pierre. Et sur ce roc, vous avez vu la conséquence? Puisque tu as une exacte connaissance de moi, Pierre, tu vas devenir un roc et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et je crois que le pasteur Clémence nous a entretenus dans le livre de Pierre de ce que c'est que toi et moi, nous sommes comme une pierre vivante. Donc la connaissance de Christ exacte fait de nous des pierres comme éléments matériaux de construction du royaume de Dieu. Et dans le mot pierre, il y a l'idée de robustesse, il y a l'idée de constance, il y a l'idée de persévérance. Voilà, lorsque nous parcourons la parole de Dieu, ces mots reviennent souvent. Pourquoi Jésus le dit? Il le dit parce qu'il le sait. Il est passé sur la terre des hommes, il sait ce que c'est. Il a été l'objet de beaucoup d'opprobes, mais cependant, il trouve toujours un mot juste pour relever quelqu'un. Je me dis dans ma tête, je dis que Seigneur, comment tu t'arranges? Les gens t'ont injurié, ils t'ont traité de démon, ils t'ont traité de tous les noms, mais lorsque tu te retrouves en face d'eux, tu n'as pas une parole déplacée. Oh, souvent nous on a des excuses, hein? Tu sais qu'on est des humains, non? On s'accorde parfois cette... Jésus le fait quand il était humain. À Dieu, cela n'est pas impossible. À l'humain, cela paraît difficile, mais à Dieu, cela n'est pas impossible. Il faut que l'Esprit du Seigneur nous aide. Donc, connaissance de Christ. Et les bénédictions suivent. C'est quand on a la vraie connaissance de Jésus que Jésus, montant au ciel, il envoie l'Esprit de Dieu et nous recevons l'Esprit. Et nous recevons toutes les grâces qui vont avec l'Esprit. Et quand on n'a pas la connaissance exacte de Jésus, et c'est ce qui se passe parfois dans certaines religions qui se disent chrétiennes et qui ne le sont pas. Parce que toute religion qui se dit chrétienne doit reconnaître Jésus comme sauveur du monde, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'est pas simplement un simple modèle d'homme. Il est le prophète, il est le créateur, parce qu'il a existé avant que le monde ne soit. Et quand on a une telle appréhension de Jésus, une telle compréhension, ça ouvre la porte à toutes les autres bénédictions parce que c'est en lui que Dieu nous a tout pleinement donné. Nous sommes appelés à cultiver cette relation personnelle avec Dieu notre Père et qui a des conséquences sur notre rapport interpersonnel. Parce que Dieu que nous ne voyons pas, nous prétendons l'aimer. Si nous aimons Dieu, nous aimons notre frère, notre sœur. Nous faisons partie de la même famille. Et Dieu nous demande d'être les gardiens des uns des autres. Et vous avez reçu sans doute des numéros de téléphone la semaine dernière. Et le travail pratique commence. Ah oui. Je voulais ajouter sur un élément. Pour y parvenir à cet état, Dieu a mis à la disposition de ses enfants légitimes divers moyens de grâce, en vue de les nourrir, en vue de les alimenter dans leur croissance pour leur épanouissement spirituel. Il nous revient à chacun de nous imposer une discipline. Ah, ça c'est important ça. Une discipline pour dompter la vieille nature qui résiste à sa mise à mort. Et ces moyens de grâce sont lesquels? Il y en a plusieurs. La prière, c'est un moyen de grâce. Et c'est une discipline qu'il faut se l'imposer. Ça ne vient pas tout seul. La méditation quotidienne de la parole du Seigneur, ça, c'est des exercices auxquels on doit être habitué. L'étude des Écritures, seul ou à deux ou à plusieurs. La participation au rassemblement, c'est aussi un moyen de grâce. C'est comme ça que nous découvrons parfois nos caractères revêches et sur lesquels nous sommes appelés à travailler. Quand on vit tout seul, on ne s'en rend pas compte. Parce que vivre ensemble nous apprenne à supporter les uns les autres, nous apprenne la valeur du partage, à faire un peu l'espace à l'autre aussi, le sens du partage, du respect, et qui manque de plus en plus à notre monde. Et nous, nous ne devons pas perdre ces valeurs. Respecter les personnes âgées pour les jeunes, respecter les femmes, respecter les hommes. Alors, pour rire un peu, pour voir ce qui se passe, un jour, j'étais allé pour acheter du pain. C'était à midi, donc les jeunes collégiens, ils viennent en trombe, il y en a 4 ou 5 qui rentrent dans la boutique avec fracas. « Ah, moi, je veux ceci, ah, moi, je veux cela. » Au lieu de laisser l'autre parler après l'un et l'autre, non, ils crient à la fois et la boulangère, elle est complètement perdue. Et je vois un monsieur qui vient, tranquillement, qui rentre, et qui enlève son chapeau et dit « Bonjour à tout le monde. » « Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour les enfants. » Waouh. Et rien que ça, une belle leçon est passée. On ne se le dit plus là. C'est rare de trouver des gens de cette valeur-là. Ils sortent de la préhistoire. Mais ce sont ces valeurs que nous sommes en train de perdre et que Dieu nous est en train de nous le restituer. Je donne comme exemple simplement pour que vous ayez une idée de ce que je voulais dire. Alors j'en termine. Les moyens de grâce, vous le savez déjà. Et donc venir au rassemblement, ce n'est pas un devoir, mais c'est une obligation morale. Comme manger, si je ne mange pas, je n'ai pas de force. Et si je n'écoute pas la parole de Dieu de manière régulière, les mauvaises herbes poussent au fond de mon cœur. Vous en avez déjà fait l'expérience. Quand vous vous éloignez de Dieu, vous vous apercevez que vos vieilles habitudes ressortent. Vous devenez grincheux. Moindre chose, vous vous fâchez. Prêt à lâcher, voilà. Donc on voit que tout cela doit être dompté, maintenu sur le fil de la croix. Et ça, c'est l'écoute de la parole, le partage avec les frères qui nous maintiennent dans cet environnement pour que nous grandissions. L'autre point, en effet, ce type de piété nous donne un nouveau style de vie, influe notre manière de faire. Le dernier, c'est l'unité. L'unité, donc, la première étape dans cette liste d'exigences ou des obligations spécifiques au corps de Christ. Vous savez, depuis le commencement de la révélation de Dieu à l'humanité, Dieu avait montré un principe qui est facile à comprendre, mais difficile à mettre en application. C'est le principe de l'unité. C'est le principe de l'unité. Et on voit parfois des bien-pensants pour dire qu'allez, construisons l'unité au sein du corps de Christ. Ça paraît une poésie, mais à la lumière des Écritures, c'est faux. L'unité nous a déjà été donnée. Quand Jésus s'est donné à la croix, l'unité fait partie du package. C'est à nous de la saisir et de la vivre. Sauf que nous laissons notre vieille nature prendre le dessus. Et comme la vieille nature, c'est la nature du péché, et que le péché nous désarticule, le péché nous met en miettes. Et lorsqu'on croit en Jésus, Jésus est en train de nous intégrer, il est en train de nous reconstruire, esprit, corps et âme, tout entier à lui. Le péché sème le chaos. Et parfois, il y a certains qui disent, ah, tiens, ce que j'ai dit, je ne le pense pas. Mais pourquoi tu ne le penses pas? Je ne pense pas ce que j'ai dit. Mais non, ce que tu dis t'engage. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et ça aussi, c'est le combat de la réforme, de restituer les valeurs de mots bibliques. Quand on dit amour, c'est amour chrétien. Quand on dit liberté, ce n'est pas être un électron libre, faire ce que je veux. Et parfois, la liberté individuelle se bute avec la liberté de Dieu. Je fais ce que je veux, alors, mais qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Ça, c'est très important, ça. C'est des mots qui nous polluent, parce que le contenu n'est pas le même. Alors, le principe de l'unité, il est central dans la façon dont Dieu travaille. C'est pour ça que Jésus, dans la prière que nous avons faite ici un dimanche, Jean 17, Jésus a prié pour l'unité du corps de Christ. Seigneur, je prie pour qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes... Ah oui. L'unité. Un seul corps. Dans ce verset-là, j'en ai compté 8. Et si vous ajoutez le mot unité, ça devient 10. Et si vous ajoutez le mot tout le corps, ça devient 11. Dans un 4-6 versets, vous trouvez ce mot, c'est que Dieu veut insister dessus. Notre défi est de lutter contre le réflexe dominant, celui de la vieille nature, afin de conserver et vivre pleinement cette unité qui nous a déjà été donnée. C'est notre loyauté et fidélité envers cette vérité spirituelle qui vont nous permettre de faire la différence. Alors chaque enfant de Dieu que nous sommes doit s'efforcer constamment de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il ne s'agit pas d'une unité organisationnelle qu'on nous prône, mais il s'agit d'une unité spirituelle. Unité spirituelle que nous recevons par la parole de Dieu. Et ça, ce n'est pas l'homme qui va le décréter. L'unité n'est pas un décret de l'homme. C'est l'œuvre de l'Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Mais il faut beaucoup d'humilité, hein, de notre part pour vivre ces choses. Et si tout cela est réuni, nous pouvons maintenant tendre vers la maturité. Parce que la maturité, c'est le symbole de l'expression d'un organisme vivant. Il fait appel au développement, à la croissance spirituelle d'un individu dans sa foi. C'est un processus continu de transformation intérieure vers la conformité à l'image de Christ. Alors, voici quelques aspects qui caractérisent généralement la maturité chrétienne. À quelle occasion dit-on qu'une personne est mûre dans la foi ? C'est quand la personne entretient une relation intime avec Dieu. Elle cherche à connaître Dieu personnellement, à travers la prière, à travers la méditation, à travers la lecture de sa parole qui permet de remplacer mes pensées avec les pensées de Dieu. Voilà. Parce que nous tous, nous avons, dans notre parcours, reçu ce qu'on appelle les valeurs qui se transmettent par des pensées. Et souvent, ces valeurs sont les valeurs du monde, qui sont en opposition avec les valeurs du ciel. Et donc, en lisant la parole du Seigneur, qui est comme de l'eau qui tombe dans ma conscience, elle me lave. Elle remplace cette pensée ancienne avec la pensée nouvelle qui est celle de Dieu. Et elle m'influence. Et lorsque je relis, je suis influencé par la lecture de la parole de Dieu, de ce que j'ai lu avant. Et donc, petit à petit, je suis conduit vers le raffinement de la parole du Seigneur. Le processus de sanctification croissant. Ça, c'est important. Quand on dit qu'une personne est mûre sur le plan spirituel vers lequel Dieu nous tend, c'est que la personne est capable de comprendre la pensée du Seigneur, de se laisser guider par Dieu. Elle produit en nous la justice et la sainteté. Et la maturité spirituelle, permettez-moi de le dire, elle se manifeste par l'esprit de service. Nous sommes diacres les uns des autres. L'esprit de service, c'est ça qui nous caractérise. et surtout par les temps qui courent, où beaucoup de voix se réclament de la vérité. On ne sait pas où se trouve le chemin de la vérité. La capacité de discerner, de séparer le froment de la paille, des demi-vérités du mensonge et de la vérité. Parce que le diable ne vient pas comme ça avec un visage découvert, il vient toujours de manière subtile. Et nous avons besoin d'un esprit de discernement qui aiguise notre sensibilité à écouter Dieu et à pouvoir l'accompagner et le suivre. Voilà, j'en termine là, avec ces quelques pensées, et j'en arrive à la conclusion. Donc pour jouir de cette réalité qui nous mène à une espérance commune, le peuple de Dieu que nous sommes devrait se montrer résolu dans son engagement. Et qui dit les choses de Dieu, dit les choses morales, éthiques. Souvent, on me fait la remarque, « Ah, tu ne fais la morale. » Ce n'est pas mon intention première. Mais comme c'est la parole de Dieu, elle se calque sur la morale. Et souvent, on dit que la morale, c'est ce qui est tordu. Et la parole de Dieu, c'est ce qui est droit. Et donc, vivre convenablement selon les principes de Dieu nous oblige à vivre la dimension de la morale qui est l'éthique. Et l'éthique, d'abord, ça fait partie des disciplines qu'on enseigne à la faculté de théologie. Cela implique vivre le principe de Dieu, les valeurs de la foi, de traiter les autres avec amour, faire autrui ce que tu veux qu'on te fasse, rechercher la justice et l'équité, et le désir de protéger le plus faible. Le plus faible. À ce sujet, j'ai une histoire à vous raconter, mais ça me prendra du temps. Je vous expliquerai une autre fois. Ayez le regard sur les gens faibles au milieu de nous. Ne les méprisez pas. Ainsi, tout cela s'articule autour de la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et la foi n'est pas un élément passif. La foi est un élément actif. Elle ne se laisse pas déborder. La foi qui déborde. Elle ne se laisse pas arrêter. Non, la foi avance. C'est la foi qui étouffe. C'est la foi qui paralyse l'ennemi. Et la foi fait avancer. Elle s'affirme. Elle commande. Voilà. Le mot d'ordre que l'apôtre Paul veut nous rappeler ce matin et que je voudrais vous le partager. Et si nous prenons conscience de cela que nous vivons selon une loi élevée, nous sommes comme un ballon qui flotte sur la mer du monde corrompue et rien ne peut nous atteindre. Et le Seigneur nous protège. C'est vraiment de tout mon cœur que j'aimerais partager ça avec vous. Peut-être avec des mots maladroits, mais en tout cas l'intention est pure pour que tous ensemble, main dans la main, nous nous levons vers le haut. Et le principe de l'unité est une dynamique. Si un peut en chasser 100, deux peut en chasser 10 000. Mais si un peut en chasser 1 000, deux peut en chasser encore beaucoup plus. Et donc l'unité déclenche la puissance, la dynamique. On appelle ça l'entreprise de la synergie, mais c'est beaucoup plus puissant que ça. Il fonctionne bien dans le domaine contraire à Dieu que dans le royaume du Père. Et le monde sait que si nous nous unissons, on devient puissant. Mais ils s'unissent pour devenir pire, comme à la tour de Babel. Mais nous, nous devons nous unir pour être meilleurs, pour aller vers le Seigneur. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur d'avoir démontré à notre égard ta miséricorde, ta grâce et ta bonté. C'est ta bonté qui nous attire vers toi. C'est ta bonté qui nous conduit vers la repentance pour que nous exposions nos cœurs et nos pensées à la vérité éternelle du Christ. Elle nous offre de changer notre manière de penser. Elle nous propose le salut. Et elle nous enseigne la sagesse d'établir des priorités, de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses viennent après. Seigneur, aujourd'hui, plus que jamais, nous choisissons d'abandonner les différents domaines de notre vie à toi. Ces différents domaines qui nous éloignent de ta présence, nous te le donnons. Prends-en le contrôle. Que la puissance de la croix de Christ agisse dessus. Donne-nous de renoncer aux idoles muettes qui envahissent nos cœurs et qui nous empêchent de voir ton vrai visage. S'il te plaît, cher Saint-Esprit, souffle dans notre esprit. Change notre manière de penser. Change nos goûts. Donne-nous de nous rapprocher de notre Père, de Jésus-Christ. Que soit réalisé ton merveilleux plan dans notre vie. Nous te prions ainsi pour chacun d'entre nous. Nous te prions également de nous donner de renouveler notre engagement. Nous voyons que notre marche, beaucoup sont essoufflés. Les sirènes du monde viennent détourner les gens du droit chemin. À l'instant où je te prie, Seigneur, touche le cœur de tes enfants. Que les voix de l'ennemi ne prévalent pas au-dessus de celles de Christ. Les séjours des morts, qui sont les voix de Satan, ne peuvent pas prévaloir contre l'Église de Jésus. Nous te recommandons chaque personne ici présente, les personnes âgées, nos aînés. Nous te recommandons toute femme, tout enfant, pour lequel nous voulons prier particulièrement. Prends le contrôle de leur jeune cœur, Seigneur. Que l'ennemi ne les détourne pas dans ce monde de violence sans valeur. Donne à nos épouses, Seigneur Dieu, d'être des mères, non seulement sur le plan physique parce qu'elles donnent la vie, mais des mères sur le plan spirituel parce que par leur prière, beaucoup de personnes viennent à la vie. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, cher Seigneur. Gloire et louange à toi. Dans le nom de Jésus. Amen.